mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Évidemment, je le dis à chaque semaine, mais c'est vrai, toujours un plaisir de vous retrouver ici à l'émission. Toujours un plaisir de vous accompagner et que vous m'accompagniez également dans la découverte du 9e art de la bande dessinée. On le disait la semaine dernière, on le redira cette semaine, donc une nouvelle année qui s'amorce toujours avec son lot de découvertes, toujours avec son lot d'explorations. Et évidemment, dans des dates aussi qui nous placent de plus en plus à proximité du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Vous avez vu sûrement passer sur les médias sociaux, sur le site officiel du festival et ailleurs, les listes de titres qui sont dans les nominations ou du moins sous considération pour les différents fauves, pour le Grand Prix également, le vote est en cours. Donc, tout se prépare un peu à gauche et à droite. On l'avait mentionné l'an dernier quand même, des Québécois, des Québécoises qui se retrouvent également parmi ces listes-là. Ça sera le cas d'ailleurs d'une de nos invitées cette semaine, Sophie Bédard, qui sera de passage en quelques minutes avec nous pour nous jaser de son album « Félix et la maison qui marchait la nuit ». C'est du côté de la ville Brûle. Une maison qui se déplace à la rencontre de différents personnages au service, pourrait-on dire, d'une tristesse qu'on tente progressivement de chasser ou du moins d'outiller la jeune fille qui habite cette maison-là pour qu'elle soit en mesure d'amorcer le début d'autres choses. J'en dis pas plus puisqu'on va l'explorer au fil de presque une demi-heure d'échange avec Sophie tout à l'heure. Mais avant de tomber là-dessus, je mentionnais Angoulême et j'en profite également pour mentionner au passage, ça n'a pas encore beaucoup percolé dans les médias, mais cette année, le Québec aura tout de même une place de choix dans cette édition du festival, notamment un espace Québec qui est prévu à l'intérieur d'une des bulles du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, une délégation d'auteurs, d'autrices québécois, québécoises qui se prépare également, pilotée entre autres par l'équipe de Québec BD. Donc des expositions, des présentations, une délégation. Donc bref, ce serait intéressant de surveiller tout ça et peut-être de revenir également au retour du festival pour prendre mesure des impacts à court, moyen, long terme que ce type de démarche-là peuvent avoir. On le voit ça et là de façon sporadique. D'ailleurs, je pense que le Québec avait eu aussi des places de choix dans d'autres manifestations littéraires au fil des années. Et bien donc là, c'est Angoulême qui ouvre un peu cette porte. Une porte qui était déjà un peu très justifiable dans la mesure où on avait notamment Julie Doucet qui avait reçu le Grand Prix l'an dernier, qui a livré d'ailleurs l'une des affiches de cette édition du festival. Alors, je ferme un peu la parenthèse Angoulême, mais je pense que ça vaudra la peine de suivre tout ça. Et pour ceux qui auront le plaisir, le privilège d'aller faire un tour là-bas, de voir un peu comment s'exprimera sur le terrain. Donc, cette forte présence québécoise qui est annoncée. Donc, comme je le disais, sur le pas, justement, des prix remis à Christian Quesnel, Anne-Marie Saint-Cerny, Julie Doucet l'an dernier, sur le pas des autres auteurs, autrices québécois, qui avaient eu des récompenses au fil des années à Angoulême ou qui avaient eu des mentions également à Angoulême, qu'on pense au Rabagliati, qu'on pense au Delisle, qu'on pense aussi à Sylvie Rancourt, notamment, et plusieurs, et quelques autres à tout le moins. Donc, bref, à surveiller. Mais bref, je m'égare également. Alors, revenons à l'émission. Donc, je vous disais que tout à l'heure, on va se lancer avec Sophie Bédard. Et en deuxième moitié d'émission, on plongera dans des commentaires BD. Dans un premier temps, en compagnie d'Édouard Tremblay, qui était très déçu qu'on ait complètement échappé une bande dessinée qui s'appelle Les yeux perdus de nos palmarès et nos discussions l'an dernier qui va proposer un rattrapage autour de cette BD-là. Donc, ce sera en deuxième moitié. Et je compléterai également de mon côté avec quelques commentaires BD. Alors voilà pour cette semaine, ici à La Vie en BD. On porte maintenant un regard sur la bande dessinée jeunesse « Félix et la maison qui marchait dans la nuit ». C'est disponible depuis quelque temps déjà du côté de la ville Brûle, au Québec et en Europe. Et l'autrice est avec nous, Sophie Bédard, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, je pense qu'il faut parler des sujets que tu choisis d'aborder à travers Félix. C'est quand même deux sujets qui sont relativement délicats, le deuil et la dépression tels que vécus par un enfant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir parler de cette thématique-là à travers la bande dessinée?
En fait, je pense que mon sujet de prédilection, c'était surtout la tristesse. C'est après coup que je me suis rendu compte que ça pouvait être interprété comme de la dépression, mais oui, c'était vraiment comme une espèce de tristesse qui assomme un peu et qui fait en sorte que c'est difficile de rejoindre les autres. Et en fait, à la base, j'étais en train d'écrire un livre qui était, lui, très déprimant, contrairement à Félix. Et là, la pandémie est arrivée, ce qui a fait que la vie est devenue comme difficile un peu autour de moi. Et j'avais pas envie de faire une bande dessinée qui était surtout triste. Et donc, à la place, j'ai fait une bande dessinée qui parle de la tristesse, mais que moi, je ne trouve pas triste. Comme je la trouve drôle, je la trouve assez légère, je trouve qu'elle respire la vie et l'amitié. Donc, c'est un peu ça qui m'a amenée vers ce sujet-là. J'avais envie de passer du bon temps avec des personnages.
Et on se retrouve dans Félix avec un personnage, en fait, je pense que tu viens de le dire, qui est assommé un peu par quelque chose qui est triste et la tristesse l'assomme. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Et dans le fond, elle, Félix, devient immobile, en fait, se retrouve immobilisée. Et j'imagine qu'en termes narratifs, ça devient difficile de dire, OK, j'ai un personnage qui est pogné, qui a envie de dormir, qui a envie d'être dans son lit, qui n'a pas envie de bouger. Et l'idée est venue, j'imagine, de faire bouger la maison dans laquelle il habite et que ça soit le lieu, dans le fond, qui se déplace, puisque la personne qui l'occupe, elle, pour les circonstances qu'on découvre dans l'album, ne se déplace plus.
Mais c'est ça, à la base, mon idée, c'était vraiment un truc de cohabitation, donc entre Félix et les amis qui viennent habiter avec elle. Sauf qu'après ça, c'est ça, j'avais cette idée-là d'un personnage qui est bloqué elle-même, qui est pas capable d'aller vers les autres. Fait que là, je me suis demandé, OK, mais comment les autres vont venir habiter avec elle? Et c'est là qu'est venue l'idée de la maison, qui est lui-même un personnage très important de l'histoire. Qui est celui qui fait en sorte que l'action arrive, que je lui ai donné, c'est ça, une possibilité de se mouvoir pour aider Félix, la personnage principale, c'est ça, à sortir de cette situation-là.
Oui, en fait, c'est ce genre de moment où tu dois te dire, en réfléchissant à tes affaires, OK, là, ça, c'est un déclic, ça marche. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'imagine que là, le reste des éléments s'imbriquent. C'est un peu le morceau de casse-tête qui a fait que le reste s'est placé un peu autour de Félix.
Exact. Je me souviens que j'avais envoyé un premier découpage à mes éditeurs qui n'était pas du tout ça l'histoire, puis je me suis vraiment peinturée dans un coin. Puis au bout de 3 mois de silence, je suis revenue avec complètement un découpage différent et il y avait cette idée-là. J'étais comme, OK, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que je voulais raconter.
Et tu l'as dit, dans le fond, il y a des amis, il y a des personnes qui en viennent à graviter autour d'elle. Et au bout du compte, le récit devient un peu, bon, disons, un procédé où la maison se déplace, elle nous amène à la rencontre, dans le fond, d'une personne. Cette personne-là s'insère dans le foyer, apporte quelque chose à Félix. Et on répète un peu à différentes étapes. Donc, j'imagine qu'il faut bien cadrer, dans le fond, que chaque ami apporte quelque chose de différent au foyer, apporte un contexte différent. Viennent bonifier un peu par rapport aux besoins que Félix va avoir aussi dans ce qu'elle vit à travers le récit.
Ben c'est ça. En fait, au départ, quand les personnages viennent s'installer avec Félix, c'est surtout Félix qui se positionne comme personne qui doit subvenir aux besoins des autres et ça la force un peu à sortir de l'état dont elle est parce qu'elle est comme, OK, ben là, je ne suis pas capable de m'occuper de moi, mais il y a d'autres personnes qui dépendent de moi, c'est-à-dire comme la première qui a besoin de se faire loger en quelque part, une autre qui a besoin d'être nourrie constamment et tout. Et là, elle continue de s'oublier un peu de cette manière-là, comme elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour les autres. Et c'est au cours du récit, que les autres commencent à se rendre compte de ça et à se dire, OK, mais là, on est supposé habiter toutes ensemble. On est supposé être là, toutes les unes pour les autres. Et là, il y en a une qui fait juste donner et qui n'accepte pas de recevoir. Pourquoi? On va essayer de questionner ça.
Oui, puis qui, à travers un peu cette mise en action-là, la force un peu à sortir de son lit, au bout du compte, parce que c'est les moments où elle sort de sa catatonie presque. Et en même temps, mais les autres aussi finissent par prendre en charge certains pans de la maison. Par exemple, à un moment donné, on voit ta lapine, Diane, qui se met à faire le ménage. En fait, bon, on trouvait qu'il y avait un besoin, il n'était pas répondu, on peut se mettre en action aussi.
C'est ça.
Donc, tranquillement, un peu de façon organique, le foyer se mobilise. Toujours en prenant compte de la réalité que Félix traverse, dans le fond.
Exact, c'est ça. Je pense que c'était important pour moi de parler de la maison, de la cohabitation, du foyer, parce que je pense que l'endroit où on habite est représentatif de notre état mental et aussi peut l'influencer beaucoup. Le foyer dans lequel se passe cette histoire-là, je pense qu'il est représentatif de l'état mental dans lequel Félix est, c'est-à-dire qu'il est un peu laissé à l'abandon, on n'en prend pas soin, il est vide et tout. Et là, plus elle va s'activer, plus elle va s'ouvrir aux autres, plus le foyer va s'animer, il y a des gens qui vont rentrer, on va en prendre soin. Donc, c'est la maison qui prend soin de Félix et après ça, Félix qui prend soin de la maison aussi.
Et ça se fait de façon progressive parce qu'évidemment, on comprend au départ que Félix est triste. Mm-hmm. Et c'est tranquillement qu'on comprend aussi l'étendue de sa tristesse, si on peut dire. Donc, tu te laisses au fil de ces rencontres-là aussi, puis au fil des lieux qu'elle va visiter, la possibilité d'en dévoiler un peu là-dessus. Et c'est à peu près à mi-récit quand la maison s'en va en ville et que Félix dit « Non, il y a trop de monde, je suis pas capable de sortir. » Qu'on comprend que... On est au-delà d'une entre guillemets d'une simple tristesse, dans le fond que ça va un peu plus loin que, mm-hmm. qu'une tristesse ordinaire, si on veut.
Ben c'est ça, comme je voulais un peu. C'est ça. Félix est bloqué, elle a peur d'aller vers les gens, elle a peur que les gens voient sa tristesse. Je pense qu'elle a peur d'être rejetée aussi par les gens. Et le fait de s'isoler, ça fait en sorte qu'elle s'habitue à cette isolation-là. Et quand il y a une possibilité d'aller vraiment comme à l'extérieur, de voir des gens, elle a énormément de difficultés à le faire. Et finalement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle le fait dans cette scène-là éventuellement? C'est parce que quelqu'un lui demande comme « Ah, mais est-ce que c'est possible d'y aller finalement? » Et là, elle dit comme « Ok, ben si c'est pas pour moi, ça va être pour quelqu'un d'autre, puis là, je vais réussir à sortir, mais elle n'aime pas ça, c'est très difficile pour elle. »
Et toujours des éléments qui mettent de l'avant l'importance de la sororité au bout du compte, parce qu'il faut dire que toutes les amies sont des filles aussi, tu as choisi donc d'illustrer un peu l'idée de la sororité à travers aussi ce foyer-là.
Oui, bien c'est ça. Le fait que mes personnages des filles, c'est un peu venu... de manière naturelle, c'était pas nécessairement réfléchi. Qu'est-ce qui a été réfléchi, par contre, ça a été le fait de les dessiner avec un visuel neutre, parce que je me suis rendu compte que quand on dans la fiction, souvent le neutre est masculin. Et là, d'ailleurs, qu'est-ce que je remarque, c'est que quand il y a certaines fois où on a parlé de mon livre, quand on genre mes personnages, on dit un oiseau, un lapin, alors que c'est une oiselle et une lapine. Mais c'est ça, mes personnages, ils ont un physique neutre. C'est des filles dans le sens qu'elles se genrent au féminin, mais c'est pas nécessairement comme... C'est pas des humaines, c'est pas des personnages de femmes. Mais c'est ça, c'était vraiment juste un petit détail que c'est venu naturellement pour moi, puis c'est après ça que je me suis... que j'ai intellectualisé ce fait-là.
Oui, en fait, faut laisser un peu... laisser l'instinct faire son chemin aussi, faire son travail là-dessus. Puis... J'imagine, en fait, est-ce que ça s'est beaucoup passé, ces éléments-là, au casting de tes animaux, de tes personnages, de dire, OK, ben, faut que ça soit une oiselle, ça, je verrais le lapin, ça, je verrais le bébé, ou est-ce que ça s'est précisé un peu une fois que tu es intégré dans le foyer, plus à l'étape de la mise en dessin, dans le fond?
Au tout début du projet, quand j'étais, c'était pendant la pandémie, j'avais commencé à faire des petits strips sur Instagram où, sans vraiment planifier quoi que ce soit, j'ai commencé à dessiner ces personnages-là qui vivaient déjà tout ensemble dans la maison, comme il n'y avait pas l'idée de la maison qui marche et tout. C'était vraiment un truc de petite cohabitation et le design est venu vraiment tout naturellement. Et je pense que leur personnalité a suivi un peu le design, comme, mettons, la lapine, elle a une apparence un peu austère, mais pas austère, mais comme elle est très, très sérieuse, comme elle a un petit nœud papillon. L'oiselle est plus ronde, puis joyeuse et tout, et le bébé, c'est juste un bébé, fait qu'elle est tout le temps en train de hurler, puis d'avoir des besoins, fait que c'est ça, c'est vraiment venu un peu naturellement.
Oui, puis de façon aussi à s'assurer, j'imagine que chaque personnalité se distingue pour amener, changer la dynamique dans le fond ou apporter à la dynamique le bébé qui arrive la bébé qui arrive à la fin, qui criarde, qui grognonne, ben, ça tranche un peu avec les autres qui arrivent beaucoup plus doucement dans le foyer, par exemple. ou en fonction des besoins ou de leurs attentes particulières envers le foyer qu'il faut qu'ils se distinguent aussi, donc pour éviter aussi une certaine redite, j'imagine.
Oui, bien ça, dans un peu toutes les histoires que j'écris, c'est important pour moi d'avoir des personnages qui se distinguent des uns des autres parce que j'aime beaucoup créer des dialogues où il y a un peu des frictions, pas nécessairement comme des conflits, mais un peu dans mon livre, je trouve qu'un truc qui est un truc que je trouve drôle personnellement, c'est d'avoir les personnages qui se chamaillent un peu, qui se comprennent pas tout de suite, que c'est pas juste des amis qui se disent comme ah, je t'aime donc bien, c'est donc bien le fun de vivre avec toi, mais il y a un peu, tu sais, des vraies dynamiques, là, comme quand tu habites avec des gens qui te ressemblent pas nécessairement sur tous les points. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer dans la fiction.
Oui, puis en fait, toujours avec le principe, on revient un peu avec quelque chose que tu dis au départ, donc quand on qualifie un peu l'ambiance du récit. Puis il y a peut-être le terme bienveillance aussi qui me venait beaucoup dans ce que je percevais du récit de Félix, dans la mesure où tous ces gens-là arrivent dans le foyer, mais personne remet en question ce que vit Félix non plus. Tout le monde est là pour les uns pour les autres. Tout le monde va chercher à s'entraider de façon réelle, au-delà de ces petites frictions ordinaires-là. Donc, tout le monde agit au bout du compte avec bienveillance mutuellement.
Mais c'est ça, je pense que bienveillance, c'est vraiment qu'est-ce que j'essayais d'explorer avec ce livre-là. J'avais besoin de bienveillance, j'avais envie d'écrire un récit de bienveillance où, c'est ça, les personnages sont pas nécessairement parfaits, mais il y a cette volonté-là de se comprendre les unes les autres, au bout du compte, même si des fois il peut y avoir des accrochages. Pour moi, c'est ça que j'ai envie d'explorer, dans mes histoires.
Oui, puis ça amenait nécessairement, dans le fond, dans tes dialogues, dans les petits agros dont tu parlais tantôt, par exemple, ben, on sait qu'ils vont trouver un terrain d'entente parce qu'il y a une volonté de le trouver. Donc, j'imagine que toi, ça t'oriente aussi en disant, bon, OK, on définit, il va y avoir un petit accrochage, il se passe une friction, mais nécessairement, ce ne sera pas une friction qui va s'étendre sur 100 pages ou sur 10 pages. Ça se règle assez rapidement parce qu'il y a une volonté de le régler. Donc, ça fait aussi que ton récit avance quand même assez rapidement, tu sais, en termes de dialogue, en termes d'échange et de reste. À travers ça, dans le fond, justement, de quelle manière on le rythme un peu, parce qu'on le disait, donc il y a un côté épisodique, un peu protocolaire à la limite, en fait, donc la maison se déplace, une rencontre, une intégration, et tranquillement, j'imagine qu'on se dit, bon, OK, à tel moment ou à tel autre moment, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui fasse progresser de façon plus fondamentale le récit. Je parlais de la ville, notamment, qui arrive à peu près au milieu, il y a une autre séquence un peu plus loin, dans laquelle je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail, mais qui est un moment de rupture importante aussi. Donc, j'imagine qu'il s'agit de bien placer ces moments charnières-là pour réorienter ou donner un nouvel élan à ton récit, au-delà de l'aspect protocolaire.
C'est ça. Le fait que chaque personnage comme prenne un moment pour s'installer chez Félix, je voulais aussi que ce soit une façon de... Chaque personnage voit quelque chose de Félix, comme remarque quelque chose. Comme il y en a une qui remarque, je me souviens, les rêves que Félix a fait, l'autre qui va remarquer plus la tristesse et tout. Puis c'est à force d'en discuter les trois ensemble que elles vont se rendre compte de quelque chose. Fait qu'il y avait vraiment besoin du fait que toute cette petite gang-là d'amis soient réunis ensemble pour qu'il y ait une résolution vers, c'est ça, le trois quarts du livre.
Donc, c'est ça. Dans le fond, on rythme adéquatement. Puis, une fois que tu as tous tes ingrédients, que tous les éléments sont placés avec des personnages, ben, c'est là que tu es capable d'amener le sprint final parce que tous les regards sont là. Puis, le regard est complet, dans le fond, sur ton personnage principal. Et donc, on est capable d'avoir la poussée nécessaire pour amorcer, dans le fond, le début de quelque chose.
Exact. Chaque personnage est comme un petit ingrédient et à la fin, ça fait un gâteau.
Et tout ça dans un contexte aussi où, d'un côté, tu as le réalisme, et je trouvais que c'était intéressant dans la dynamique du récit, donc tu as le réalisme magique du récit lui-même, les animaux, la maison et le reste. Mais la tristesse de Félix, je trouvais que tu la jouais de façon réaliste. Dans la mesure où, bon, avec le lit et le reste, mais aussi avec le fait qu'il n'y a pas une transformation magique qui se passe. Au bout du compte, le récit est celui d'une amorce de mise en mouvement, mais Félix, il n'est pas transformé à la fin du récit comme quelqu'un qui vit réellement une grande tristesse, un deuil, une dépression ou autre. Ça ne mettra pas magiquement à aller mieux parce que finalement, il a réussi à se mettre en mouvement en cours de route, là.
Non, c'est ça, mais ça me tentait pas de mentir à qui que ce soit. J'ai pas envie de dire genre « Ah, si t'arrives à parler de tes problèmes, le lendemain, ça va mieux aller. » C'est vraiment juste comme le début de quelque chose, le début d'une connexion. Puis je pense que c'est important de le dire que c'est ça, il n'y a pas de recette magique, mais qu'il y a de l'espoir en bout de compte. C'est ça qui est important.
Oui, puis en fait, c'est d'amener un peu aux jeunes, parce que dans le fond, des livres sur le deuil, il y en a quand même pas mal, mais des livres sur la dépression, les grosses tristesses, sincèrement, il n'y en a pas des tonnes. Je pense que je pourrais pratiquement les compter sur le doigt d'une main, ceux que j'ai vus passer. Donc, il y a un intérêt de parler de ça, et j'imagine que le fait d'en parler justement de façon réaliste en termes de solutions, ben ça fait une base de discussion aussi entre le lecteur adulte, le lecteur enfant, entre la démarche pour comprendre ce qui se passe, qui est beaucoup plus riche que si justement on avait été avec quelque chose qui était plus à l'eau de rose.
Mais c'est ça, puis le deuil est important dans le livre, mais c'est presque un outil du récit. Dans le fond, c'est la tristesse que Félix vit, ça pourrait être dû à autre chose, ça pourrait être dû à rien en particulier, quelque chose qu'on a du mal à s'expliquer. Et c'est ça, je voulais juste comme montrer que c'est quelque chose qui arrive et que c'est pas anormal. Moi, j'ai tout le temps été une enfant très mélancolique et ça m'a pris du temps à le comprendre. Et j'étais attirée par les récits mélancoliques et tout, mais je pense pas que j'avais eu accès à quelque chose qui montrait quelqu'un qui vivait comme cette espèce de tristesse-là. Puis je pense que j'avais besoin que ça existe. C'est pas venu rationnellement, c'est vraiment comme je suis arrivée avec cette idée-là, puis après ça, je me suis dit, oh, c'est drôle quand même de faire mon premier livre pour enfants, puis que ça parle d'être déprimée, mais OK, Agnès, que c'est ça que j'ai à offrir au monde.
Oui, puis en même temps, j'imagine qu'à un moment donné, comme tu disais, si tu étais mélancolique un peu, ben, tu as peut-être envie d'aller chercher un récit qui t'aurait interpellé d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement dire que, tu sais, mais il y a des fois une volonté de partager quelque chose qu'on aurait aimé peut-être croiser en cours d'enfance ou en cours de jeunesse.
Exact. Donc à la fois quelque chose de triste et mélancolique, mais aussi quelque chose de drôle, parce que pour moi, les deux sont difficilement indissociables dans mon écriture. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire cohabiter. Puis je trouve que l'humour se nourrit de la tristesse et la tristesse se nourrit de l'humour.
Oui, puis de la simplicité, d'un côté réconfortant, d'un côté lumineux, en fait, parce que je pense qu'effectivement, c'est important de le mentionner, on peut parler de la tristesse sans avoir un album qui est gris, qui est morne, qui est triste, qui est lourd. Au contraire, c'est léger, c'est épisodique, c'est très coloré aussi, avec des couleurs, en fait, qui fonctionnent beaucoup par aplats dans cet album-là, puis avec des tons de couleurs qui sont douces, mais qui sont lumineuses aussi, donc ça...
Donc, c'est ça. C'est les éléments que je voulais faire ressortir de ce livre-là.
Et tout ça placé quand même dans des paysages qui sont surtout hivernaux. J'imagine une volonté, peut-être un peu avec des températures plus froides, de garder ton héroïne à l'intérieur ou du moins de pas faire ou de refléter son état d'esprit par le paysage ou.
Oui, ben, je pense que c'est venu justement parce que quand l'idée du livre m'est venue, c'était dans une période d'enfermement, il faisait froid, c'était difficile de sortir à l'extérieur. Donc, je trouvais que ça marchait bien, cette affaire-là de, tu sais, quand t'es chez toi, puis t'es au chaud chez toi, puis tu sais que ça te ferait du bien d'aller prendre une marche, mais c'est difficile. Il y a comme ce sentiment-là de, ah, mais aller voir les autres, ça serait cool, mais c'est dur de le faire, tu sais, c'est dur de se rendre jusque-là. Puis l'hiver, ça représentait bien ça.
Oui, avec l'esprit un peu cocooning, tu sais, où c'est les moments où on a l'excuse toute faite pour rester en dedans, surtout s'il y a un foyer, tu sais, les
Exact.
arguments s'accumulent. Et dans le fond, avec ton casting de Félix aussi, donc comment ce personnage-là est venu, de ce que j'en comprends, il était là assez rapidement au départ, avant même la maison ou le reste, donc. Dans le fond, est-ce que l'idée de cet enfant-là, puis de la façon dont tu la représentais, c'est venu un peu instinctivement, ou est-ce que tu l'as réfléchi particulièrement, ou?
C'est vraiment venu instinctivement. Un truc, par contre, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire Félix, c'était pas nécessairement l'idée d'en faire un livre jeunesse. Donc, le personnage n'avait pas d'âge. Dans ma tête, elle n'a pas d'âge encore. Ça pourrait être une enfant autant qu'une ado, autant qu'une adulte. Elle n'a pas vraiment de traits caractéristiques, comme c'est juste un personnage un peu rondouillet. Mais c'est ça. Au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était plus comme une jeune adulte. Et là, je vois qu'elle est perçue comme une enfant et ça me fait plaisir aussi. Je pense que n'importe qui peut un peu projeter une partie de soi, une partie de son groupe d'âge dans ce personnage-là. Mais c'est ça. Au début, j'avais juste cette espèce de volonté-là de parler de qu'est-ce que je ressentais au travers de petits personnages un peu ronds. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Félix avec les amis, mais j'avais pas encore réfléchi à l'objet, comment il allait être comme communiqué, comment il allait être vendu et tout. Puis c'est quelque chose qui est venu vraiment plus par le tard.
Oui, ben, un peu comme pour le genre de tes personnages, dans le fond, on ne se dit pas, OK, on va faire ci, ça, ci. On crée un personnage qui a une fonction, qui a une personnalité. Puis après ça, ben, l'âge, le genre et le reste, c'est des éléments qui s'ajoutent un peu, qui se bonifient ou qui relèvent carrément de la perception du lecteur.
Oui, c'est ça, exact. J'aime bien inventer des personnages et après ça, je les laisse un peu exister dans ma tête, puis c'est souvent eux qui me montrent le chemin après. Je me laisse guider par mes personnages pour l'écriture de mes histoires.
Et tu disais, c'est une première bande dessinée jeunesse pour toi aussi. Tu en as fait d'autres entre-temps et depuis. Est-ce que, dans le fond, de ce que j'en comprends, on aborde la BD jeunesse un peu comme tu abordais la BD pas jeunesse au bout du compte. Donc, dans le fond, la méthode de travail est à peu près la même.
Oui, exact. C'est ça. Je pense juste qu'il faut que je réfléchisse un peu des fois à mes tournures de phrases. Tu sais, mettons, on parle de comment le deuil est abordé. Je me souviens que j'étais comme, mon Dieu, est-ce que ça va être trop dur et tout? Et là, j'avais besoin vraiment d'un regard extérieur pour qu'on me dise que des gens qui parlent avec des enfants dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas mon cas, me disent, non, non, c'est correct et tout, parce que c'est ça, moi, on oublie des fois un peu c'est quoi qui est adapté à tel ou tel groupe d'âge. Donc c'est ça. Je pense que j'avais peur, mais qu'au final, ça s'est super bien passé, puis j'ai pas eu de problème avec comment je voulais dire les choses. Mais je me souviens que j'étais un peu craintive de comme, ah, est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais traumatiser des enfants? Puis finalement, j'ai l'impression que non. Je pense que tout se passe bien.
Oui, ben en fait, visiblement, puis entre autres à date, la réception est assez positive à l'album. Au moment où on se parle, on est en amont du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'album s'est retrouvé dans la sélection jeunesse du festival, ce qui est quand même pas rien. Donc, j'imagine que déjà là, ça doit être un peu une validation que ton instinct a fait mouche, au bout du compte, à tout le monde auprès de la critique, auprès du milieu et auprès du public qui l'a lu à date, là.
Oui, ben c'est ça, c'était une super belle surprise. Puis j'avoue que là, je reviens de faire des salons, des festivals de bande dessinée en France. Puis juste le fait de voir comment les enfants réagissaient à mes personnages, parce qu'à date, j'avais surtout eu des lecteurs autour de moi qui sont plus dans mon groupe d'âge, qui sont adultes. Puis là, de voir des enfants réagir aux personnages, être attirés partout, puis là, je leur présente un peu, puis ça, je les vois s'animer, puis être intéressés, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça a été super validant pour moi d'être comme, OK, non, ça marche!
En fait, tu sais que l'instinct ne s'est pas trompé.
Exact, c'est ça.
Et évidemment, les gens peuvent le constater en lisant l'album également, donc qui est disponible, je le rappelle, du côté de La Ville brûle. Ça s'appelle Félix et la maison qui marchait dans la nuit. C'est de Sophie Bédard. Sophie, merci beaucoup.
Merci, Raymond.
Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous. Et maintenant, ben, on est en compagnie d'un de nos collègues réguliers qu'on retrouve au retour des fêtes. Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond. Salut des auditeurs.
Alors évidemment, on te prend au retour des fêtes, au retour de vacances aussi d'ailleurs. Donc, après un temps des fêtes assez intensif, on l'imagine, la littérature, les livres, la bande dessinée toujours au cœur de ce que les gens aiment bien s'offrir, j'imagine, à Noël aussi.
Ben oui, ça a été inévitablement au rendez-vous comme à chaque fois. Et ben oui, comme tu l'as révélé, j'avoue que j'ai eu la chance de bénéficier de quelques vacances, question de reprendre des forces. Question aussi, ben un peu comme tout le monde dans le milieu, de faire un petit peu le bilan comme ça de nos belles lectures. On est toujours un peu, tu sais, début janvier, c'est le temps des palmarès, c'est le temps des coups de cœur, des choses comme ça. Et bien, le fait est que, justement, quand tu m'as offert cette possibilité de carte blanche, Je me suis interrogé, mais en fait, assez peu longuement, parce que je me suis rendu compte comme ça que, il y avait une bande dessinée qui, malgré bon, les émissions, hein, malgré les clubs de lecture et tout, j'ai comme pas eu la chance, en fait, disons, d'expliciter un peu plus cette magnifique BD-là. Et le fait est, je pense, quand même, dans une perspective plus large, malgré un certain succès. Je pense que c'est une bande dessinée qui a aussi un petit peu passé en dessous du radar, hein,
Oui,
des
puis
fois.
c'est facile de passer en dessous du radar. Là, je faisais le palmarès la semaine dernière, puis je pense que c'est à chaque année, je me rappelle quand l'Association des critiques et journalistes de BD faisait l'inventaire des publications, quand on reçoit les listings, c'est pratiquement des fois des milliers de publications en Europe. C'est intensif, et le système fait qu'il y a toujours publication sur publication sur publication. Et à un moment donné, on se rend compte comme ça qu'on en échappe. Et ben justement, les cartes blanches comme celle à laquelle on t'a convié cette semaine, Édouard, permettent de rattraper un peu ça. La BD, je mentionne le titre et mea culpa aussi de mon côté, je ne l'ai pas vu passer celle-là non plus. Donc, tu vas m'embarquer dans le wagon et dans le train que tu mets en marche aujourd'hui. Alors, la BD, c'est Les yeux perdus de Agrimbo et Tumburu.
Oui, magnifique justement, magnifique BD, un one shot, hein, comme on dit en latin, donc l'histoire est déjà est complète en elle-même. On est d'emblée porté par, je dirais, un très, très, très beau trait. Magnifique, magnifique. En fait, Tomburo, qui est sur le dessin, va nous amener quelque chose avec des couleurs chatoyantes, avec une ambiance même qui laisserait penser à une. Pratiquement une bande dessinée qui s'adresse à un jeune lectorat, alors qu'il ne faut pas se prendre au piège parce qu'au contraire, c'est quelque chose de quand même assez sombre et qui s'inscrit, je pense, dans la veine un peu plus large du conte traditionnel, hein. On sait que, bon, il y a eu, hein, au début du 20e siècle, cette espèce de appelons-le, la disneyfication des contes traditionnels, où, et bon, garde
On les a transformés, ils sont devenus gentils, on a
Exactement,
enlevé un peu les
là,
trucs
tu sais,
un peu plus
bon.
choquants. Et effectivement, on réagit toujours quand on retombe sur la vraie histoire, on se rend compte que c'est un peu plus intense, si on
C'est
peut dire qu'est-ce que nos souvenirs d'enfance nous en ont laissé.
Ben exactement, hein. Bon, hein, Disney, je veux dire, on en prend, on en laisse, je leur donne tout le crédit pour les magnifiques films d'animation qu'ils ont faits, mais hein, en contrepartie de ça, il y a des choses comme ça. Ils ont atténué justement ces contes-là. Ils ont enlevé les aspects plus sinistres qui servaient quand même à l'époque, hein, parce que justement, bon, le conte était un peu c'était une morale, hein, c'était une leçon qu'on voulait donner aux jeunes et même des fois aux moins jeunes, hein, donc de faire attention à certaines réalités. Bon, quand on pense à Barbe Bleue, quand on pense au petit chaperon rouge, il y a toujours quelque chose qui vous met en garde, vous prévient et tout. Et c'est ce qui faisait que justement, ben, l'ambiance de ces contes-là était beaucoup plus sombre, beaucoup plus sinistre
Ça fallait
que
aller
non.
loin pour montrer la conséquence, dans le fond, qu'on allait potentiellement éveiller par rapport à
Ben,
nos actions, par rapport
inévitablement,
à nos
c'est ça.
choix.
Exactement, exactement. Et c'est justement vraiment cette ambiance-là, je trouve, qu'on va retrouver comme ça dans Les yeux perdus, qui, comme je disais, va vraiment aller s'inscrire dans la continuité de tout ça. Je vous mets le truc en contexte. En fait, on est en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, quelque part sur le front de l'Est, dans le coin de la Pologne, de la Russie, c'est pas très, très clair, endroit assez boisé, où il y a comme ça, isolé, une grosse demeure qui a l'air d'un gros manoir, mais enfin, on comprend que c'est un orphelinat, où il ne reste en fait peu ou prou que dans l'orphelinat que trois jeunes enfants, deux garçons et une petite fille. Et dès le début de l'histoire, on va voir le petit garçon et la petite fille, en fait, les deux plus jeunes de la bande, qui sont vraiment. Je pense que la meilleure façon de le dire, qui sont vraiment instrumentalisés par le plus vieux des trois, qui va se servir d'eux comme ça pour attirer des soldats errants, des soldats qui sont perdus comme ça dans la forêt, qui vont les amener à l'orphelinat sous prétexte, bien sûr, hein, de un peu se faire protéger, mais en même temps offrir de la bouffe et le gîte aux dits individus. Et tout ça pour que le plus vieux des trois enfants, qui doit avoir peut-être 10 ans, 11 ans, tue les soldats en question et s'en sert comme source de nourriture.
OK, donc on est déjà, ça donne le ton là, quand tu parlais tantôt, OK, on est dans un dessin un peu plus fantasque, un peu
Oui,
plus
oui, oui.
naïf, mais OK, on nous arrive avec un argument
Et
comme ça où.
c'est ça. Et ça arrive dès le début de l'histoire. Donc, comme je vous dis d'emblée, là, cette espèce de beau trait, cette espèce de belle ambiance va aller vous clasher ça en plein visage comme ça. Mais c'est comme, oh mon Dieu Seigneur, OK, je ne m'attendais pas à ce degré de noirceur-là. T'sais. Et plus intense encore, parce que c'est comme, c'était pas comme assez. En fait, cette espèce de justement, le plus vieux des enfants, espèce de petit rouquin qui, justement, manipule ça, on va comprendre assez vite que, bon, c'est lui qui mène la dynamique du jeu. Il était, lui, l'enfant des propriétaires de l'orphelinat, et il a simplement gardé ces deux jeunes-là, justement, dans le but de se faire des réserves de bouffe. Donc, lui, n'a aucun espèce de scrupule par rapport à ça. Et plus encore, comme je disais, il a une espèce d'obsession qui fait qu'il n'est pas capable que de voir comme le regard figé de ces cadavres-là. Et donc, il se sert d'une cuillère pour récupérer les yeux et mettre ça dans des bocaux. Et il a comme ça toute une série de bocaux avec les orbites, les globes oculaires de différentes victimes, d'où pourquoi tu l'as compris, hein, le titre des yeux perdus.
Et là, on comprend aussi, je pense qu'on s'image en lien, puis je pense que c'est important que tu nous amènes rapidement avec l'ambiance visuelle, et donc de nous faire comprendre que rapidement, on tombe dans la noirceur dans le récit, mais avec justement toujours ce trait-là qui supporte ce type d'imagerie-là. Ça me fait penser à d'autres albums. C'est un procédé qui n'est pas unique aux yeux perdus, j'imagine, mais qui a toujours un effet qui est fort, je trouve, de nous amener dans un récit qui est sombre, mais avec un trait qui est plus naïf, qui augmente ou qui magnifie, je trouve, l'effet, peut-être le décontenancement qu'on peut avoir et qui, j'imagine, perdure aussi tout au long de l'album.
Tout à fait. Comme je vous dis, c'est vraiment ce qui va donner un peu sa pertinence à ce récit-là, hein, qui va lui donner justement tout son impact, qui va lui donner justement le caractère, comme je disais, de conte gothique, de vraiment de conte de fées qui tourne tout croche, espèce de barbe bleue étrange, d'Ansel et Gretel, là, tu sais, avec des enfants. Parce qu'il y a, et c'est ce qui est un peu le point encore là, un peu fantastique de tout l'aspect du conte, il y a dans ce manoir-là un paquet de poupées, de petites poupées comme ça, victoriennes, qui sont capables de parler. En tout cas, on se rend compte que le plus jeune des enfants communique avec elles. On présuppose, est-ce qu'elles sont hantées? Est-ce que c'est le jeune homme qui s'imagine ça? Évidemment, j'en révèle pas trop, hein, pour le bénéfice du lecteur, mais on va se rendre compte aussi que la particularité de toutes ces poupées-là, c'est qu'elles elles n'ont pas de yeux. Et ce qu'elles demandent aux petits garçons, c'est trouve-nous des yeux, qu'on puisse s'animer et venir prendre soin de toi. Et là, avec les yeux dans le bocal, vous comprenez que tout ça...
1 + 1 = 2, là.
Et voilà, hein, donc il n'y a pas de secret là-dedans. Le petit garçon va essayer justement de s'emparer des globes oculaires, de donner ça aux poupées, écoutez, pour nous amener avec une finale dont je ne révèle absolument rien, mais qui est assez... assez saisissante. Et donc, dans l'ensemble, comme je disais, vraiment là, un récit qui est parfaitement maîtrisé, qui a vraiment justement une pertinence, une justesse dans son ambiance, dans ce qu'il veut amener, dans une volonté de morale, mais qui n'est pas moralisatrice, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on passe une leçon, mais tout ça n'est pas sacrifié au détriment de l'histoire. Donc, d'abord et avant tout, ce qu'on veut, c'est nous présenter un bon récit, quelque chose qui est solide. On va très rapidement s'attacher aux deux jeunes orphelins. On va très rapidement comprendre que, justement, l'espèce de le plus vieux des quatre... qui a vraiment quelque chose de profondément malsain avec cet enfant-là. On veut juste, à partir de là, vouloir découvrir à quel point ou jusque dans quels abîmes cet enfant-là est capable d'aller. Et
puis les autres enfants aussi, bien, j'imagine. C'est dans le fond, une fois que la roue se met en marche, mais on a envie de savoir où cette roue-là va s'arrêter, où ça va nous amener. Et je veux dire, t'en parles un peu comme ça, je vois très bien la fable conte, puis aussi presque dans une ambiance un peu horrifique. Je veux dire, d'un point de vue cinématographique, ça serait classé horreur, là, ce type de récit-là.
Ah oui, tout à fait, là. Je veux dire, on pourrait facilement, disons, expurger l'aspect conte de fées pour garder là, quelque chose qui est vraiment purement, là, c'est comme je disais, là, c'est le concept de la maison interdite, le concept de Hansel et Gretel, où on a vraiment plus, là, on va se servir du prétexte des deux pauvres petits orphelins qui, eux, justement, là, veulent pas nécessairement, je veux dire, ils n'ont pas envie de prendre part à ça, mais bon, de un, ils meurent de faim. Et encore une fois, comme je disais, on comprend assez clairement que, je veux dire, le plus vieux des trois, si eux, ils n'obéissent pas, c'est eux qui vont devenir de la bouffe. Là. C'est cette dynamique-là très tyrannique et très terrifiante. Donc, imaginez, c'est ça, tu sais, le pauvre soldat dans le bois, lui, voit deux pauvres orphelins, comme un petit garçon, une petite fille, écoute, c'est vraiment ça. Là, c'est comme ça. Au lieu de piéger avec des bonbons, ici, on piège avec l'innocence enfantine, mais on arrive au même final où, justement, si on se laisse prendre au jeu, si on décide de suivre son cœur ou bon, son péché ou sa gourmandise ou bon, whatever, hein, ben, c'est là qu'on, c'est nous qui finissons sur la table, c'est nous qui finissons au menu, et ben, c'est le cas exactement ici. Comme je disais, pour le plus grand plaisir. Est-ce que c'est quelque chose qui, je dirais, s'adresse quand même à tous les publics? Ben non, c'est sûr que c'est. Il faut avoir quand même le cœur bien accroché. S'il y a de l'hémoglobine, on ne se le cachera pas. Hein. Vous comprenez qu'un contexte comme ça aussi, on ne peut pas complètement vider justement les aspects un petit peu plus horrifiques, un petit peu plus gore qui sont associés à ça. Mais reste qu'on est quand même assez loin. Et bon, c'est ceux qui me suivent un peu depuis quelque temps savent que je suis capable d'aller très loin hein, dans certains récits hein, ou certains aspects. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est insoutenable, au contraire. Là, je veux dire, oui, c'est sanglant, mais c'est encore une fois quelque chose qui va magnifiquement appuyer l'ambiance du récit et qui va venir ajouter à cet aspect thriller, à cet aspect angoissant aussi et de huis clos à quelque part, parce que ça, on est vraiment prisonnier cet endroit-là. Là, donc,
oui, puis en fait, j'aime bien l'idée, puis t'amènes de toute façon sur le gore aussi, puis sur l'aspect de le sang, oui, mais qui serve à quelque chose, qui serve au récit. Sinon, ça devient juste un gadget, sinon ça perd son intérêt, ou ça devient juste un artifice de « OK, on va voir jusqu'où l'auteur va nous amener, on va se provoquer », mais au-delà de ça, il n'y a pas, de justification narrative si c'est un gadget de ce type-là non plus.
C'est le même aspect, c'est le même constat. Comme je disais, moi, j'adore ces côtés-là très trash et très gore, mais à un moment donné, c'est ça, je veux dire, tu finis assez rapidement par commencer à faire un tri dans ce qui n'est justement que du choquant pour être choquant et qui va justement rien apporter de côté narratif ou de côté même à la limite divertissant, parce qu'à un moment donné, écoute, de l'hémoglobine au galon, ben, je veux dire, un coup que t'en as vu une fois.
C'est un peu à la limite ce qui est dénaturé à mon sens, même le cinéma gore comme tel, où à un moment donné, devenait juste une épreuve de sensations fortes, où il appelait presque ça de la torture gore, torture porn, ou presque
ouais, ben exactement,
des éléments comme
exactement.
Ça où on dit OK, on écoute un film de Eli Roth pour voir jusqu'où il va aller, mais d'un point de vue narratif, d'un point de vue script, ça a un intérêt qui est très limité au-delà d'une première écoute. À un moment donné, quand on fait l'acquisition d'un objet culturel, c'est aussi pour avoir une expérience au-delà de cette première lecture-là aussi.
Tu sais, t'as la même chose avec des BD, tu sais, des séries comme Cross qui sont complètement, tu sais, comme absurdément choquant, tu sais, sur tous les points. Puis, je veux dire, un moment donné, tu sens très bien que, je veux dire, on est choquant pour être choquant et que, justement, mais, tu sais, tu te laisses porter, tu sais, des fois, bon, certaines, comme je disais, certains arcs narratifs qui sont plus intéressants que d'autres, mais un coup que tu as compris que là, c'est comme la violence est portée à son nu, qu'il n'y a plus de retenue, ben, je veux dire, un coup que tu es là-dedans, il n'y a plus d'autre chose. Et c'est là où, justement, l'importance d'un bon récit où on veut. Parce que si on veut choquer, encore une fois, et je reviens toujours à Lovecraft, qui était le grand maître hein, pour créer ces ambiances-là et tout, je veux dire, bien souvent, tu vas aller beaucoup plus créer un effet efficace avec quelque chose qui va être suggéré ou qui va être laissé un peu en plan. Et donc, c'est de trouver, je dirais, cet équilibre entre le non-dit, le subtil, et ces moments où là, il faut vraiment être allé chercher ton lecteur, là, tu boum, OK, bon, là, le type meurt, là, s'envole, et quand c'est bien dosé, quand tout ça est fait par quelqu'un qui connaît son scénario et qui connaît justement les mécanismes de l'horreur. Parce que comme on parlait justement on parlait d'humour dans des clubs de lecture aussi, moi, chacun de ces styles-là a ses approches, a ses genres, a ce mécanisme bien particulier qu'il faut comprendre ces critères-là. Et l'horreur ne fait pas exception à la règle. On peut facilement tomber dans le grand guignolesque puis perdre complètement tous nos repères avec ça.
Mais comme donc, dans tous les styles, en fait, il y a la facilité partout et on a tendance des fois à regarder un peu de haut la littérature de genre, mais bien faire du genre, c'est pas facile non plus. Il faut être un auteur pour bien faire du genre, à mon sens.
Exactement. C'est extrêmement difficile et ne s'improvise pas justement auteur de genre qu'il veut. Et je pense que c'est vraiment à porter au crédit de nos deux auteurs ici qui ont, en tout cas à mon humble avis, une connaissance de qu'est-ce qu'est un bon récit horrifique. Tant que moi, en plus, c'était bon deux auteurs que j'avoue que je ne connais pas. Je ne pense pas qu'ils aient fait autre chose. En tout cas, s'ils ont fait d'autres œuvres, j'avoue que ce n'est pas des gens que j'avais vus passer. Et ne serait-ce que par le dessin, justement, de Tom Burrows, qui était vraiment magnifique, je n'ai pas l'impression de l'avoir déjà revu. Mais donc, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai bien hâte de voir ce que ces deux gens-là nous réservent dans l'avenir, parce que s'ils sont capables de répéter le tour de force qu'ils ont fait avec ça, comme je vous dis, ça n'a pas eu le crédit que ça aurait dû avoir. Ça n'a pas, des fois, c'est ça, ça sort dans des périodes où il y a tellement d'affluence, où il y a une BD qui s'impose, c'est tellement importante, où je pense même que c'est sorti peut-être dans le même bout que La Cité oblique. Donc, inévitablement, on était tous dans toute l'exubérance. Et donc, inévitablement, il y en a comme ça, comme on disait, qui tombent dans. Mais donnez-lui une chance. Faites-vous un cadeau. Démarrez votre 2023. Écoutez, allez chercher ça, les yeux perdus chez Dargo. Je vous garantis, vous ne regretterez pas, là. Magnifique récit.
Alors, ben voilà, donc une carte blanche pour nous inspirer à plonger dans ça et pourquoi pas en parallèle à replonger aussi dans les livres horrifiques ou à tendance horrifique qu'on aurait dans notre bibliothèque et se ressasser au genre avec l'excuse des yeux perdus pour y plonger. Édouard Tremblay, nous, on se dit à très bientôt aussi pour le prochain club de lecture.
En effet, j'ai bien hâte. En plus, ça va être mathématique. On va bien s'amuser.
Excellent. Alors, Édouard, je le rappelle, qui est libraire aussi chez Pantoute. Alors, on se dit à très bientôt. Merci d'être passé pour ta carte blanche à la vie en BD.
Un plaisir, comme toujours, mon ami.
Alors, on se lance avec quelques petits commentaires BD. Évidemment, il y a certains titres qui sont sortis l'automne dernier dont je n'ai pas eu ou pris le temps de parler ou eu l'occasion de vous parler. C'est le cas notamment du troisième tome du Facteur de l'espace, donc la fin du monde. Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault qui est un peu partout, je pense, en fait vraiment multiplateforme. On voit d'ailleurs en fait la BD, je pense, se déployer dans une multiplicité de médiums et de médias. Plus récemment, je pense que si on reste du côté des éditions de La Pastèque, c'était Le Petit Astronaute qui se retrouve en version livre audio, donc sur les plateformes audio de Radio-Canada. Le Facteur de l'espace, lui, avait été adapté, entre autres, en série animée. Il y avait eu des plateformes web. Donc, différentes propositions comme ça autour de cet univers créé par Guillaume Perrault. Un univers, en fait, qui se prête bien, je pense, à ce type, justement, de mise en espace-là, de mise en série aussi. On parle quand même, et pour ceux qui n'ont jamais vu un des livres ou une des itérations du Facteur de l'espace, eh bien, rappelons-nous qu'il s'agit quand même d'un facteur, donc qui va livrer des paquets de planète en planète. Alors, véritablement, une série qui est une invitation à l'exploration pour le lecteur, pour la lectrice, et qui est évidemment une belle porte pour l'imaginaire de son auteur, Guillaume Perrault. Et le défi, j'imagine aussi dans un contexte comme ça, mais est un peu à deux niveaux. Donc, d'un côté, de varier la nature des planètes, de ne pas se retrouver nécessairement avec le même type d'archétype planétaire, le même type de lieu. Donc, voir à ne pas trop... à ce qu'il n'y ait pas trop de redondance en matière de lieux visités, donc d'un côté, et de l'autre, ben quand même d'offrir aussi un contexte général qui n'est pas exactement le même, parce que ça reste quand même un vecteur classique, donc un peu comme le premier, comme le deuxième, le troisième tome commence et se termine un peu de la même façon. Donc ce qu'on suit, c'est une journée de livraison, et on aura compris que ben, dès le premier tome, donc les journées de livraison sont quand même assez intenses, assez variées. C'est un travail difficile, mais un travail qui doit être assez stimulant d'être facteur de l'espace. Je parlais un peu de variété dans la mesure où pour le premier tome, c'était les débuts de Bob le facteur, donc ses premiers contacts avec le métier, donc on voyait quelqu'un qui découvrait. Au deuxième tome, ben, on découvrait un facteur qui s'était imposé, qui était employé du mois presque toujours et qui désormais devait former quelqu'un d'autre au métier. Et dans le troisième, ben, on n'a pas nécessairement ce type d'éléments-là moteurs, si on peut dire, pour la dynamique à l'intérieur du vaisseau et entre les différents chapitres. Alors, on y va plutôt avec un anecdotique, donc dans l'idée où Bob, eh ben, ne peut pas déjeuner ce matin-là parce que le plat qu'on lui offre est une spécialité d'une autre planète qui ne convient pas au système digestif terrien. Alors, il devra se passer de déjeuner et passera la journée essentiellement à essayer de réussir à manger quelque chose, à manger un sandwich, à manger un plat quelconque qui convient à son alimentation. Donc, c'est un peu le petit élément anecdotique qui nous permet de rythmer le passage et aussi donner un objectif, dans le fond, parce qu'il y a quand même une certaine impatience qui se dégage parfois de certains passages. Donc, une impatience qui est due à l'urgence de son travail. Il y a quand même des délais, entre autres un paquet qui doit être livré avant une heure précise, puisque c'est un cadeau d'anniversaire. Et d'un autre côté, ben, on a un facteur qui a faim, qui a envie d'être ailleurs, même si ce qu'il visite est quand même assez trippant, ben, ça reste quand même du travail et ça reste un travail qui est fait sous l'impact de la faim, d'où le titre d'ailleurs, La faim du monde, donc vous aurez compris, FAIM. Donc, au-delà de cet élément-là, ben, qu'est-ce qu'on retrouve dans le troisième tome du facteur de l'espace? Eh ben, je pense que c'est les ingrédients qui ont fait le succès, qui ont fait que cette série-là, ben, on l'apprécie. Donc, Guillaume Perrault qui réussit à nous offrir d'autres types de planètes, d'autres types d'incidents également. Donc, une planète minière où on mine des chiffres, une planète qui semble être plus à l'imagerie de la mort et de l'ombre, une planète qui est plus consacrée aux soins pour les personnes du troisième âge. Donc, un peu comme une résidence pour aînés. Donc, on essaie de varier un peu de ce côté-là. Je pense que c'est une variété qui est appréciée, une variété qui nous amène également à explorer plusieurs types de couleurs, plusieurs types d'ambiance, plusieurs types de personnages et où on sent ben, que l'auteur semble avoir encore un vif plaisir justement à imaginer ces planètes-là, à imaginer ces créatures-là, à imaginer ces petits mondes-là. Et à nous les offrir de façon quand même assez claire pour qu'on puisse comprendre où on se trouve assez rapidement, donc dans les ambiances, donc à travers les couleurs, à travers les bibites, les personnages qui les peuplent, à travers ce qui semble être la charge principale associée à cette planète-là. Et évidemment, on est dans des usages quand même très, très précis, là. Je pense que si on allait d'un point de vue purement scientifique, eh bien, il n'y a aucune de ces planètes-là qui serait capable de s'auto-suffire. Mais dans le contexte du récit, on accepte facilement justement ces mono-usages et ces types de planètes, un peu comme on le faisait dans d'autres séries de science-fiction, qu'on pense à Star Wars ou autre, une planète entièrement désertique, une planète entièrement aqueuse, une planète entièrement marécageuse. Bon, c'est un peu excessif, c'est pas nécessairement fonctionnel, mais d'un point de vue scénaristique, ça marche et on accepte. Et c'est ça l'essentiel. Donc, on accepte un peu l'idée de ces planètes-là. Les enfants ben, suivent avec justement le changement de ton, le changement de couleur, le changement de forme, le changement de décor. Ben, leur attention est constamment renouvelée, constamment sollicitée également. Évidemment, si vous avez soif de nouveautés, vous n'avez pas suivi les deux premiers tomes, vous pouvez quand même replonger dans le troisième. Je ne pense pas qu'il y ait un enjeu particulier. Évidemment, on comprend qu'il y a des choses qui se sont passées avant. Il y a des références, il y a des personnages qu'on avait trouvés dans d'autres tomes, dans d'autres itérations qui reviennent aussi à l'intérieur du récit, des petits clins d'œil au fait que Bob est employé du mois depuis une multitude d'années, donc qui nous font comprendre qu'on est dans le contexte d'une série, qu'on est dans un univers qui est quand même relativement large, entre autres sur le plan des personnages, mais au-delà de ça, on plonge assez facilement dans les ambiances qui sont proposées par Guillaume Perrault. Alors ben voilà, dans le fond, j'en dirai pas plus, sinon pour vous dire que le facteur de l'espace, donc troisième tome, qui est aussi bon, aussi sympathique que les deux premiers et qui vient de façon joyeuse s'ajouter, dans le fond, à l'ensemble médiatique que constitue désormais ce facteur de l'espace. Alors ça, c'est du côté des éditions de la Pastèque. Autre clin d'œil au passage du côté du convoyeur de Dimitri Armand et Tristan Rouleau, donc scénariste québécois qui nous offre ici troisième tome de cette série du côté du Lombard, donc ces ténèbres qui nous lient. Et une série, dans le fond, dont on nous annonçait au premier tome, mais qu'on allait nous amener peut-être un peu ailleurs, que le héros n'était pas nécessairement ce qu'on allait croire. Et finalement, ben, on a compris tranquillement au deuxième, et encore plus, là, ça a explosé au troisième, ben, que le héros du premier tome n'était effectivement pas le héros, bien au contraire, était peut-être plus son vilain, son antagoniste. Et la protagoniste qui avait été amenée au deuxième tome prend désormais tout son espace, toute sa place, toute la place qui lui revient dans ce troisième tome. Et tranquillement, ben, la série, évidemment, donc le spectre de compréhension qu'on en a s'élargit progressivement. Donc, c'est bien, je trouve, bien monté, bien préparé. Donc, d'un tome à l'autre, donc on élargit tranquillement les frontières, on élargit tranquillement notre compréhension de cet univers-là, un univers qui était quand même bien réfléchi, bien pensé par Armand et Rouleau, dès les prémices, dans le fond, du premier tome. Pour le contexte, évidemment, on se retrouve donc dans un univers où le métal n'est plus nécessairement très, très fonctionnel. Ça a amené des mutations. Il y a des êtres, donc les convoyeurs, qui transportent des paquets en échange d'un œuf, le seul paiement qu'ils demandent. Et dans ce troisième tome-là, ben, donc il y a l'héroïne donc qui prend l'espace central, qui essaie de reprendre contact avec son mari qu'elle croyait disparu, qui avait quitté son foyer pour une raison qui n'était pas claire pour elle au départ, mais qui l'est devenue au fur et à mesure, évidemment, que la série avançait, de comprendre un peu d'où viennent ces convoyeurs et d'amorcer, dans le fond, les prémices de la lutte contre ce groupe. Alors, c'est un peu ce qu'on met en place là-dedans, une mise en place qui est très, très basée sur l'action dans ce cas-ci, donc vraiment beaucoup de scènes de confrontation, c'est très haletant, c'est très dynamique comme récit, donc on place un peu les cartes, on sent qu'on est en plein crescendo, un crescendo qui n'est pas uniquement qu'en mode préparatoire du quatrième tome. Évidemment, on place des éléments, on introduit des nouvelles dynamiques, on introduit des nouvelles relations, donc on place les choses, on amorce et on amène aussi des nouveaux enjeux qui vont évidemment prendre encore plus de place dans les tomes subséquents, mais quand même, je le sens beaucoup en crescendo parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'encore plus gros qui s'en vient et auquel, ben, dans le fond, les différents personnages qu'on retrouve dans ce tome-là vont contribuer. Alors, j'en dirais pas trop, sinon que c'est bien mis en scène, c'est bien écrit dans ce type de série-là. Je pense que tout fonctionne. Une série que j'avais bien aimée au premier tome, je la retrouve avec ce troisième-là et je la retrouve avec plaisir. Si vous étiez embarqué au premier, ben, sachez que pour moi, à tout le moins, donc ça reste très solide, très intéressant. Si vous hésitiez à embarquer, ben, moi j'aurais envie de vous dire, vous pouvez plonger. Pour l'instant, à tout le moins, là, c'est vraiment une série qui m'apporte une belle satisfaction en tant que lecteur et que j'aurais tendance à vous proposer là, sans grande crainte. Je vais faire aussi peut-être deux petites mentions rapides parce que j'ai l'impression que je me suis pas donné assez de temps pour en parler la semaine dernière dans mon palmarès de l'année 2022, dans mes BD coup de cœur de l'année 2022. Parce que, dans le fond, c'est les deux titres dont j'avais pas eu l'opportunité de faire de chronique comme telle ou de vous parler plus longuement. Il y a Ténébreuse, donc, de Mallier et d'Hubert, donc Vincent Mallier et Hubert, du côté également, donc, de Dupuis, cette fois. Et je voulais vous parler parce que ça me faisait penser, enfin, on a eu Édouard tantôt, qui a fait référence, je me rappelle plus si c'était en onde ou hors d'onde, mais on en a parlé de Ténébreuse, et pour nous, c'était un peu dans le même registre que Les Yeux perdus. Dans la mesure où on a une série qui semble au départ nous amener dans un certain archétype, dans un univers avec des règles relativement claires et dont on a l'impression qu'on sait où cette série-là va s'en aller. Mais rapidement, au premier tome, à peu près au premier tiers, dans le fond, on comprenait qu'on n'était pas exactement là où on pensait, mais quand même qu'on n'en était pas très loin. Et plus le tome avançait, et plus on se dirigeait vers la finale du premier tome, plus on comprenait, ben, que finalement, on n'était pas du tout là où on pensait. Et le premier tome nous laissait dans un autre endroit, Et encore là, moi, en bon talent, je me suis dit, ah, je commence à savoir un peu où on s'en va. Je m'étais imaginé ce qu'allait être le tome 2. Et finalement, Mallier et Hubert ont réussi à me prendre un peu à contre-pied aussi et à m'amener pas à l'endroit où je pensais qu'ils iraient. Tout ça peut-être parce qu'on est face à un univers qui est clairement en zone de gris, d'une certaine façon. Donc, la princesse Islaine, le chevalier Arthur, le père d'Islaine, la mère d'Islaine. Donc, on est avec des personnages qui sont nuancés, aux motivations qui ne sont pas uniques et aux motivations qui ont évolué avec le temps jusqu'à en arriver à l'enjeu et à la réalité à laquelle on est confronté, oui, à la fin du tome 1, mais surtout au fil du tome 2. Donc, on a vraiment la volonté, dans le fond, d'un côté d'un personnage donc, qui est face à une potentielle descente aux enfers, au bout du compte, où elle pourrait devenir, dans le fond, le cœur maléfique, au bout du compte, de ce récit-là, mais qui finalement tente de lutter contre ça, de s'opposer à ça, parce qu'elle, malgré ce qui s'est passé, elle ne souhaite pas se rendre là. On a un autre personnage qui, lui aussi, aurait pu devenir le centre négatif de ce récit-là, mais qui l'est un peu, mais pas vraiment, finalement, parce qu'on comprend aussi certaines motivations. Donc, oui, il y a un côté, donc, un désir de vengeance qui est absolu, qui est justifié et compréhensible, mais qui n'est pas nécessairement jusqu'au boutiste, parce que, justement, on a un personnage qui a une certaine complexité, et même le personnage, l'antagoniste principal qu'on retrouve, dans le fond, dans ce tome-là, eh bien, on comprend aussi ses motivations, on comprend pourquoi elle s'est retrouvée confrontée un peu à des décisions extrêmement difficiles, qu'on comprend sans nécessairement approuver, et ça, c'est important, faut comprendre sans approuver, mais qu'on comprend tout de même, donc, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait et pourquoi elle a amené le récit, dans le fond, où il se trouve. Donc, on a vraiment un univers aux personnages qui sont riches, qui ont des motivations qui sont claires, qui sont en évolution. Cette évolution-là et cette complexité de relation-là permet des rebondissements. Le chevalier Arthur, lui aussi, a ça de son côté. Dans le fond, on comprend au fil du deuxième tome qu'il n'est pas nécessairement la personne qu'on avait anticipée au premier tome, mais qu'il n'est pas cette personne-là non plus. Donc, encore là, donc en nuance de gris. Donc, ça devient un récit qui est extrêmement stimulant et qui, pour moi, ben, dans le fond, va justement nous permettre d'explorer de façon large l'esprit archétypal de ce type de récit-là et le dépasser dans un contexte où, d'un côté, chaque personnage a un peu ses forces, donc la romance, la force, le plaisir et le reste, mais aussi son revers, donc les infidélités, jalousies, ruptures, etc. Donc, on joue un peu avec tout ça. Donc, bref, c'est un conte ou c'est à la manière d'un conte, mais avec une belle richesse, un univers qui, à travers cette richesse-là, favorise aussi une certaine immersion. Donc, bref, vous comprenez, je m'étais dit, bon, en 2 minutes la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de vous exprimer clairement pourquoi je trouvais que cet album-là se distinguait. Donc, un peu comme Édouard le disait tantôt pour Les Yeux perdus, ben, c'est qu'on nous amène dans un type d'univers qu'on dépasse, on nous amène ailleurs, on nous entraîne dans tout ça, mais sans jamais nier non plus le point de départ qui nous avait amené vers ce récit-là également. Donc, bref, c'est un beau coup de cœur pour moi, là, ce diptyque-là. Et je ne savais pas exactement quoi en penser à la fin du premier tome, dans la mesure où, veut pas, mais dans le fond, tout dépend du chemin vers lequel on va nous amener dans le deuxième. Mais tout de même, ce deuxième tome confirme que, eh bien, le chemin vers lequel on comptait nous amener, eh bien, il mérite largement d'être parcouru. Alors, ben, chapeau à Mallier et Hubert, donc, pour ces deux tomes de Ténébreux. Je crois que c'est publié à titre posthume, d'ailleurs, pour Hubert. C'est du côté de la collection Air Libre chez Dupuis. Et peut-être, en fait, donc, dernier clin d'œil à Philippe Xavier et Mads, donc, pour leur Serpent et le Coyote. Encore là, je vous en ai parlé peut-être un peu plus longuement parce que c'est un de mes deux coups de cœur de l'année. Je l'ai lu pendant les fêtes, j'ai pas eu l'occasion de vous en reparler au micro, mais je me disais, dans le fond, d'un coup que vous avez échappé l'émission de la semaine dernière, ben on va prendre un petit 2 minutes là, pour réitérer à quel point c'est vraiment une bonne bande dessinée aussi. Et un peu comme pour Ténébreuse, au bout du compte, ce qui fait la motivation ou l'intérêt de ces séries-là, c'est la richesse des personnages. Par contre, contrairement à Ténébreuse, où on a quelque chose qui est centré sur un, deux, trois personnages centraux, principalement quatre en fait, donc antagonistes et protagonistes, dans le cas du Serpent et le Coyote, ben c'est le serpent du titre, au bout du compte, qui est au cœur. Et pour moi, on est vraiment dans une étude de personnage, dans un personnage qui est confronté à une situation exceptionnel, pour laquelle il y a des moteurs externes où on le force à se sortir d'un isolement dans lequel il s'est enfermé pour se protéger, pour survivre, et où on va aller à sa rencontre et où on va prendre conscience de sa capacité à comprendre le jeu, à comprendre la trame qui est en train de se jouer devant ses yeux et à ménager, dans le fond, sa capacité d'agir sur cette trame-là. Au fil de différentes rencontres et simplement en allant avec compréhension de certains détails, de certains éléments, de certaines petites choses qu'on va lui amener qui va l'amener à saisir et à définir dans le fond quel geste, quel acte il doit faire pour réussir à se sortir de tel ou tel ou tel en jeu. Donc, en termes de portrait de personnage, je le réitère, donc c'est vraiment très intéressant. Évidemment, on se retrouve aussi dans les grandes étendues américaines. C'est dessiné donc en direct de France. Donc, il y a un côté un peu western spaghetti dans les décors. En fait, j'ai vu dans certaines critiques là, des mentions de « il était une fois en Amérique » et autres. Je pense qu'on peut effectivement faire ce type de comparaison-là. On est dans les grands espaces. On est dans un western, mais dans un western où les chevaux ont été remplacés par un camping-car, au bout du compte, mais où on respecte un peu, quand même encore là, ces archétypes-là, un genre qui renaît beaucoup en BD depuis la dernière décennie. Et au bout du compte, en fait, un peu comme dans un film comme Unforgiven de Clint Eastwood, où on voit, dans le fond, des circonstances qui réveillent un vieux truand qui le force à jouer une dernière fois au jeu dont il tente de s'affranchir. Eh bien, on retrouve un peu comme dans Unforgiven, donc la renaissance de ce personnage-là, donc un vieux truand qui a tout vu, qui a tout fait, qui a tenté de s'affranchir de ce jeu-là, donc pour des raisons qui sont les siennes, et évidemment qu'on découvre en cours de récit. Ils ne sont pas nécessairement si nobles que ça dans Le Serpent et le Coyote, mais ils sont là tout de même. Et donc, on va à la rencontre de ces gens-là, de leur univers et donc dans un esprit, je le répète, très, très western au bout du compte. Et ce qui fait aussi que l'esthétique western nous amène à avoir un récit où il y a des grands moments d'intensité, mais dans quand même un calme relatif, parce qu'il y a toujours une mise en relation avec une certaine attente, parce qu'il y a toujours une mise en relation avec des espaces absolument immense, absolument gigantesque, avec le désert, avec les tonalités, les jaunes, les couchers de soleil et le reste. Donc, je veux dire, et c'est là que moi, je faisais le pont avec le Western Spaghetti aussi, donc avec ce rythme un peu délibéré, au bout du compte, que nous offrent les Westerns et qu'on retrouve aussi dans Le Serpent et le Coyote. Donc, c'est un Western moderne, au bout du compte. Un tempo qui est maîtrisé par le scénariste, par Mads, vraiment de façon très, très solide, très, très, très adéquate, au bout du compte. Et dans un dessin qui est magnifique. Je veux dire, si vous la croisez sur les étaux des libraires, si vous la croisez en bibliothèque, feuilletez-la, faites-vous plaisir. Je veux dire, si vous aimez, encore là, je reviens à l'esthétique western, spaghetti, je veux dire, c'est vraiment très beau. On nous réussit à nous mettre un peu dans l'ambiance de ces espaces-là. Il y a certaines pages en noir et blanc aussi pour les flashbacks qui nous apportent une compréhension sur la nature des personnages auxquels on est confronté. Et tout ça, ben fonctionne et fonctionne de belle façon. Donc, j'espère que ces minutes-là, dans le fond, qu'on voit avec un certain enthousiasme les raisons pour lesquelles, pour moi, cette BD-là doit figurer dans les palmarès de fin d'année. Sans que j'aie tout lu, évidemment, du côté européen, mais je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a une force particulière qui émane de ça, une appropriation du genre western, une appropriation du genre gangster aussi, j'ai envie de dire, qui est quand même pas nécessairement toujours très loin. Donc, on va chercher du Scorsese aussi un peu là-dedans, peut-être. Mais dans le fond, une BD qui est au bout du compte très cinématographique dans son style, dans son ton, dans son approche, mais qui est aussi très BD dans son ton, dans son style, dans son approche, puisqu'au bout du compte, les deux genres se sont influencés mutuellement, je crois. sans dire trop n'importe quoi. Et qui est à mettre aussi dans la liste, je pense, des bonnes BD de type western qu'on retrouve actuellement chez les libraires, là. Donc, j'en dirai pas plus parce que là, je vais tomber dans le scénario, mais peut-être, en fait, pour ceux qui ont manqué la semaine dernière, je vais quand même faire un petit rappel. Donc, c'est, dans le fond, une situation où il y a un procès qui s'en vient. Il y a un type qui doit témoigner à ce procès-là, qui est le témoin clé du procès, qui se fait assassiner. Et donc, ils doivent aller débusquer, dans le fond, un vieux dénonciateur dans le fond, continue à vivre et à survivre au milieu du désert en essayant de fuir, dans le fond, des potentiels tueurs qui pourraient potentiellement être à ses trousses. Et donc, lui devra reprendre du service pour revenir faire de la délation envers des anciens associés qui sont finalement au cœur de ce nouveau procès-là. Et donc, ce qui nous explique ben, pourquoi ce vieux truand-là, un peu à la manière d'Eastwood dans Unforgiven, ben, doit reprendre du service, doit sortir de son ermitisme pour jouer une dernière fois le tout pour le tout et tenter ben, à nouveau de survivre et ben, de peut-être finir ce qu'il n'a pas pu finir à l'époque. Alors, donc, Le Serpent et le Coyote de donc Philippe Xavier et Mads, c'est du côté du Lombard et c'est absolument super. Ah ben voilà pour cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.